C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Bon, les Canadiens, on le sait depuis un bout de temps déjà, même si ça s'est confirmé mathématiquement là, qu'il n'allait pas être redessiré au cours des derniers jours, on a toujours espoir que le club école, lui, puisse jouer un petit peu plus longtemps, le Rocket de Laval. 4 matchs encore au calendrier du club école du Canadien, actuellement égalité avec les Sénateurs de Belleville, mais 2 matchs de plus de jouer. On a le plaisir d'accueillir ce soir en direct le coach, l'entraîneur-chef du Rocket, nul autre que Jean-François Hull. Bien le bonsoir, Jean-François.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien toi-même, Jean-François?
Oui, ça va bien, merci.
Oui, c'est quoi ton niveau de satisfaction de ce que tu as vécu à date, là, après tous les matchs joués dans la position que vous êtes au classement?
Oui, je dirais que c'est pas des. C'est pas facile. On a des hauts ou des bas, mais on est là. On lutte pour une place dans les séries éliminatoires. C'est très serré, mais je pense qu'on joue quand même assez bien, puis on a une chance de se rendre en séries éliminatoires avec 4 matchs à faire, alors on est content de ça.
Qu'est-ce que tu dirais, ou sur quel clou tu dois cogner le plus souvent pour obtenir ce que tu souhaites comme performance de ton groupe, Jean-François, ou si tu veux, l'élément, le talon d'Achille, l'élément sur lequel vous devez le plus travailler pour gagner plus régulièrement?
Mais on a eu une saison un peu en dentiste. On a eu une bonne partie de l'année qu'on a compté plusieurs buts, puis ça allait pas bien défensivement. Puis là, dernièrement, on compte un peu moins, mais ça va mieux défensivement. Puis fait que c'est un peu partout, un peu mélangé de la manière que notre saison a été. Là, mais pour nous, là, c'est de bien jouer défensivement, je pense, qui est très important. Si on donne pas trop de buts, puis nos gardiens de but nous gardent dans le match, on a tout le temps une chance de gagner.
Tu penses-tu que quand on demande un resserrement souhaitable défensivement, que veut pas dans l'attitude ou même inconsciemment, ça coûte des buts offensivement parce que les gars, on est en retenue un peu? Ça se peut-tu?
Oui, des fois ça peut. Tout dépendamment de quelle équipe que tu joues, tu sais, on a des équipes dans notre division qui sont très très forts offensivement, d'autres un peu moins. Alors ça peut dépendre, mais généralement, là, si on garde ça en bas de 2 buts, là, on a une bonne chance.
Bon, c'est pas évident d'analyser le travail des individus. T'as un collectif à gérer. Il y a beaucoup de mouvements, du personnel qui arrive en fin de saison, Ryan Bauer et compagnie. Mais je voulais te parler de ton gardien. C'est pas toi le spécialiste des gardiens, comme Martin, j'imagine que le grand club, tu te fies beaucoup sur ton coach, Marco Marciano. Mais en même temps, c'est toi qui coach, tu le vois performer. Daubech, là, il y a eu, à l'image de l'équipe, tu l'avais prévu un début difficile, mais c'était un gars que j'ai à l'œil. Tu serais-tu à l'aise, là? Mettons, tu es d'une situation d'urgence, que ce gars-là soit rappelé dans la Ligue nationale, là, selon toi, il serait-tu en mesure de faire la job?
Oui, je pense que oui. C'est encore un jeune gardien de but qui a vécu beaucoup cette année. Il a battu le record de victoire de Caden Primo à une année. Oui, il a pas commencé comme qu'il voulait, mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il a rebondi, il s'est repris en main, puis il a trouvé un moyen de trouver sa game un petit peu. Puis c'est crédit à lui là d'avoir fait ça et Marco Marciano. Puis moi, je pense qu'il a un bel avenir en avant de lui. Il est encore jeune, c'est sa première année dans la Ligue américaine.
Oui.
Puis présentement, dans des matchs très importants, il performe très bien.
Ben, c'est ce que je constate également dans des matchs que j'ai l'occasion de voir. Puis comme si personne n'en parle, on parle beaucoup de Fowler qui est encore dans NCAA, mais lui, c'est comme, on dirait qu'il ajoute le drapeau en voulant dire « oubliez-moi pas », il joue du bon hockey. T'as eu, bon, le dernier venu, David Reinbacher, a quand même offert de belles performances, a même inscrit au pointage, a marqué des buts importants, dont un but important dès son premier match. C'est quoi ton évaluation de ce qui t'amène depuis que tu fais connaissance puis que tu travailles avec?
Non, il nous amène du bon hockey. C'est un jeune qui garde ça simple. Il essaie pas de pas trop en faire. Je pense qu'à date, il y a 2 buts, peut-être 4-5 passes, quelque chose comme ça. Je pense qu'il... Puis il joue du bon hockey, il a un grand bâton, il a une grande portée. Il utilise son coup de patin comme faut. Puis non, on est très content de lui pour un jeune joueur là, qui arrive en Amérique du Nord sur une petite glace. On trouve qu'il fait de très belles choses. Puis lui aussi il a un très bel avenir.
Là. Trouves-tu que ça ajuste vite à la vitesse de jeu puis au temps de réaction là, que tu comptes pas 3 bateaux là, avant de sortir de la rondelle de la zone dans la Ligue américaine? Là?
Non, je pense qu'il fait très bien ça. Puis Puis, tu sais, il a encaissé une couple de bonnes mises en échec aussi. Tu sais, c'est un gros bonhomme. Il est capable d'en prendre, puis il est capable d'en donner. Puis,
du caractère, non, hein? Il a l'air d'avoir du caractère.
Ouais, il y a du caractère, puis c'est ajusté extrêmement vite, ce qui est très plaisant de voir un jeune défenseur là, s'adapter si vite que ça.
Bon, Francis Bouillon me disait il y a plus d'un an avant même qu'il joue dans la Ligue américaine que selon lui, à la question que je lui posais comme gars de développement chez le Canadien, que dans sa tête, c'était un no-brainer que le gars le plus près de la Ligue nationale à ce moment-là, c'était Logan Mailloux. Si je te repose la question en fin d'une première année professionnelle pour Logan, dirais-tu que c'est le gars que tu diriges qui est le plus près de la Ligue nationale?
Oui. Présentement, on a William Trudeau aussi, que ça fait 2 ans qu'il est avec nous à la défense. Mais Logan Mailloux, il a eu une excellente saison cette année pour une année recrue. Là. Il est sur notre avantage numérique, désavantage. C'est un gros bonhomme. Il joue avec la confiance. Puis, c'est sûr qu'il va cogner à la porte l'année prochaine, peut-être pour un poste dans la Ligue nationale. Puis, on aime beaucoup sa progression là, jusqu'à date avec le Rocket.
C'est quoi sa qualité première?
Son coup de patin. Moi, j'aime beaucoup son coup de patin. Un très bon lancer du poignet aussi. Puis, au début, défensivement, c'était pas facile, mais il a appris à bien utiliser son corps, son bâton, finir en avant du joueur, les petits détails. Puis, mais son coup de patin, pour moi, je pense que c'est ça qui le débat.
J'aime ça que tu aies fait allusion à William Trudeau dans la réponse à la question précédente, parce que il y a beaucoup de noms, évidemment, qui font beaucoup de bruit, des hauts choix de repêchage. Il y a eu du trafic entre Montréal puis Laval. Bon, Jack est allé faire un tour, Justin Barron est allé. Fait que, tu sais, en tout cas, en perception, c'est facile, tu sais, de parler des autres puis de ne pas parler de William. Est-ce que il s'est pas perdu dans tout ce trafic-là, lui? Il maintient sa valeur puis sa progression, Jean-François, dans ton œil?
Oui, moi je pense que oui. Je pense que il n'y a pas eu un début de saison facile, ce qui est normal pour une deuxième année, puis après ça, t'as plein de choix de première. T'es entouré de choix de première ronde qui font parler un peu plus d'eux. Alors oui. Des fois c'est pas évident, mais William Trudeau il joue très bien. Il est dans lui aussi il s'en va dans la bonne direction. Puis c'est sûr que des choix là, un peu plus lointains, les gens n'en parlent pas autant, mais il est aussi important que n'importe qui sur notre équipe.
Absolument, tu sais, c'est ben, tu sais, veux pas, oui, on considère beaucoup l'ordre de repêchage, mais une fois qu'ils sont sur la glace, là, c'est la performance qu'il faut que tu évalues. Je me suis gardé les attaquants comme dessert, tu l'as dit, les buts viennent plus difficilement dernièrement, et on peut avoir l'impression que les gros espoirs ne sont pas à Laval, mais sont dans NCAA ou dans le junior, puis là, Joshua a été blessé, ça s'en était un quand même, là. Mais qui sont les attaquants qui te, comment dirais-je, tu sais, que un peu dans la même foulée de la question avec Logan Mailloux, que tu considères là, sans dire qu'ils sont près de la Ligue nationale, mais qu'ils sont en voie de cogner prochainement à la porte.
Mais on a un mix de joueurs comme Gignac, Maillet, Anderson. Ça, c'est trois joueurs un petit peu plus âgés qui ont de l'expérience. Mais dans les plus jeunes, t'as Heinemann qui c'est pas un joueur qui va ramasser une tonne de points. Mais il est capable de jouer physique, puis il est capable de jouer sur 200 pieds, autant défensivement qu'offensivement. Lui est assez proche de la Ligue nationale, à mon opinion. T'as Sean Farrell qui est capable de faire des jeux offensivement. Il voit bien la patinoire, un bon passeur. Lui aussi, je pense que l'année prochaine, au camp d'entraînement, ça va être un joueur qui vont sûrement regarder. Puis après ça, on a des Joshua Roy qui est déjà là oui. À Montréal, puis on espère qu'il va rester l'année prochaine. Puis lui, il a très bien fait là, dans sa première année dans la Ligue américaine. Il a ramassé beaucoup de points là, dans la première moitié de saison.
Ben, Farrell, je trouve ça intéressant parce que si tu regardes juste les statistiques, c'est pas flamboyant, mais en même temps, c'est comme il faut que tu arrives dans les rangs professionnels. C'est pas un gros bonhomme. Tu sens-tu qu'il a pris le pouls de la vitesse de jeu, de l'élément physique, puis que l'an prochain, même s'il devait jouer une autre saison, puis probablement qu'il va jouer une autre saison avec Laval, que c'est un gars qui pourrait devenir un pilier de ton attaque ou les moteurs dans ce que oui. Je dis là?
Non, je pense pas. Je pense qu'avec un bon été, Puis après un an d'expérience, ça peut faire une différence. Comme Simoneau, le jeune Simoneau aussi, tu sais.
Oui.
Il a pris un an l'année passée, il a pris un step cette année, là, il est blessé présentement, mais c'est Xavier Simoneau, il joue du gros hockey pour nous. Puis lui aussi, il ouvre les yeux, puis ça, il va peut-être avoir une opportunité. Mais ces jeunes joueurs-là à petit gabarit, un peu plus, ça prend un peu plus de temps. Faut qu'ils mettent de la masse. Des fois, c'est 2-3 ans dans la Ligue américaine, puis après ça, ils ont leur chance. Mais faut pas tout précipiter avec ces joueurs-là. Faut prendre le temps qu'ils se développent comme faut. Puis quand ce sera le temps, là, mais ils vont avoir leur chance.
C'est fou à quel point, Jean-François, il y a quelques années, on avait l'impression, on disait la Ligue nationale s'est rendue une ligue de jeunes, mais c'est comme, c'est assez évident que c'est une ligue, à moins d'avoir un exceptionnel entre les mains, là, que pour la plupart, c'est un sport à développement tardif, puis il faut être patient avant de démissionner avec un joueur. Là, il faut vraiment y penser à deux fois. Je reviens, puis je pense à Farrell quand on dit ça, puis pas question de démissionner, c'est sa première année pro, là, mais il faut y mettre le temps. Tu parles d'Emile Heinemann. Est-ce que ça serait farfelu ou, tu sais, on aime ça faire des comparaisons, je dis pas que c'est un joueur pareil, mais dans ce qu'il pourrait faire dans la Ligue nationale, dans ses premières années dans la Ligue nationale, tu penses-tu qu'un profil Lekkonen, c'est une comparaison intéressante dans ce qu'il pourra faire, quitte à développer de l'offensive plus tard?
Ouais, peut-être s'il développe un peu plus d'offensive, parce que Lekkonen, il a un très, très bon coup de patin, puis je pense qu'il est capable de ramasser beaucoup de points. Oui, c'est peut-être quelqu'un qu'on peut comparer. Mais comme tu as dit tantôt, là, ça prend un peu de temps pour être sûr de maturer, d'avoir une bonne mature dans la Ligue américaine. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses tes erreurs dans la Ligue américaine pour apprendre, pour que lorsque tu arrives dans le national, ces petites erreurs, ils arrivent plus. Alors, des fois, ça prend un peu de temps.
Que découvres-tu en Jacob Perreault? Est-ce que le pari en vaut la chandelle? Puis le vois-tu retrouver confiance avec vous autres?
Oui, on travaille là-dessus avec Jacob. Oui, les habiletés sont là. Il a un bon coup, excellent coup de patin, des bonnes mains. Là, il s'agit de tout mettre ça ensemble, là, puis mettre ça dans un match. C'est pas... des fois, quand la confiance n'est pas là, tu te cherches un petit peu sur la patinoire. Mais il y a eu des bons matchs, il y a eu des moins bons matchs. On travaille là-dessus. Mais on va voir, je pense qu'avec une grosse été d'entraînement, puis de connaître ses coéquipiers, puis de nous connaître, nous, les instructeurs, je pense que ça va être une bonne chose pour Jacob Perreault. Puis... On voit des belles choses en lui.
Mais on touche du bois, Jean-François. On vous souhaite vraiment la meilleure des chances pour les 4 derniers matchs. Pas une grosse marge de manœuvre. Hein? Fait que j'espère que tout va rouler à ton goût. Et puis, merci beaucoup de l'entrevue que tu nous as accordée ce soir.
OK, merci beaucoup.
Merci, Jean-François. Au revoir. Jean-François Hull, donc l'entraîneur du Rocket de Laval.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
En fin de semaine, c'est deux fois le stade des Eagles rempli pour WrestleMania samedi et dimanche. Un autre gala de lutte à Philadelphie lundi. Il est la référence de lutte au Québec, puis pour probablement bien d'autres mondes en dehors du Québec. Patrick Lapatte Laprade qui est avec nous. Salut Pat.
Hey, salut Mario.
T'es en direct là-bas au Rock. Comme quoi on a profité. C'est même pas les mêmes installations, mais c'est incroyable remplir trois amphithéâtres comme ça, trois soirs de fil dans la même ville, hein?
C'est même quatre parce que vendredi, c'était la présentation de SmackDown et Tu tombes la renommée. Et il y avait 18 000 personnes ici au Wells Fargo Center. Et puis à Raw ce soir, il y en a tout près de 20 000, plus les 70 000 samedi et dimanche. C'est incroyable là, ce que la WWE arrive à faire ce week-end ici à Philadelphie.
Est-ce que les galas de samedi et dimanche, le WrestleMania qui est le Super Bowl de la lutte, est-ce que ça a livré la marchandise à ton point de vue?
Ah, absolument, absolument. Je pense qu'il faut voir ces deux soirées-là comme étant l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Il est définitivement dans mon top 5. On a livré à plusieurs points de vue. Et ce qu'il faut mentionner, Mario, c'est que c'est le premier WrestleMania sous l'ère de Paul Triple H Lévesque, qui est l'ancien lutteur, évidemment, qu'on a tenu sous le nom de Triple H, le mari de Stephanie McMahon. Et il a livré deux grosses soirées de lutte. Il y a eu les surprises, il y a eu des changements de titre qu'on n'espérait pas. Il y a eu de la bonne lutte, il y a eu des moments qu'on va se rappeler pendant plusieurs années. Il y a eu de tout pour tout le monde. Je pense que c'est deux soirées là, très mémorables.
Deux Québécois encore impliqués dans ces galas-là, là, en plus haut lieu, même si je disais que c'est peut-être un petit peu plus tranquille en ce moment pour Kevin Owens, parce que la rivalité dans laquelle il est impliqué, ben c'est pas les mêmes engagements, mais Sami Zayn et lui encore parmi les vedettes de la WWE.
Ah ben absolument. C'est Sami Zayn, oui, c'est sûr qu'il faut en parler, parce qu'il a remporté le titre intercontinental, qui est quand même un des titres prestigieux à la WWE. Il a battu Gunther, qui est un Autrichien qui avait le plus long règne de champion, au-dessus de 660 jours de champion. Puis on avait joué un peu le rôle de l'ultime négligé du côté de Sami Zayn. On avait même fait référence à Rocky, évidemment, vu que le tout était pour se dérouler à Philadelphie. Et puis bon, ben, comme dans Rocky, comme dans les films, Mario, ben le négligé a gagné, Sami a gagné le titre intercontinental dans un excellent match. Le meilleur du samedi soir, en fait, le match entre Sami et Gunther, puis ça annonce bien parce que la semaine prochaine, dans une semaine bien précisément, Raw débarque au Centre Bell à Montréal. Sami y sera comme champion. Il n'avait pas eu la chance de faire l'an dernier lorsque lui et Kevin Owens avaient remporté les titres par équipe. Donc, ça va être une grosse semaine pour le Québécois, Sami Zayn.
Bon, là, c'est de la lutte, c'est scénarisé. Fait quand tu dis qu'il a remporté le titre, puis t'en parles avec enthousiasme, comme tous les amateurs de lutte, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a décidé que c'est Sami Zayn qui devait devenir le champion? Puis pour combien de temps, tu penses?
Ben, écoute, combien de temps, ça, c'est dur à dire. Paul Levesque est le directeur du contenu à la WWE, donc il vit qui prend ces décisions-là, ou ultimement, c'est lui qui prend ces décisions-là. Puis, dans le fond, ce que c'est, oui, c'est scénarisé, Mario, mais en même temps, c'est l'équivalent d'un Québécois qui aurait un premier rôle ou un deuxième rôle dans une grosse production hollywoodienne. On tapisserait les réseaux sociaux, on tapisserait les nouvelles avec ça. Ben, c'est ce qui arrive avec Sami Zayn en ce moment. Un titre à la lutte peut se comparer à être nommé pour les Oscars ou à être à avoir un rôle d'importance dans un film, parce que justement, ben, il faut être des qualités bien précises pour être
grimper au sommet. Choisi. Ben oui.
Exactement.
Oui. Non, ça, je suis conscient de ça, mais tu sais, j'étais quand même curieux de voir. Lui, il l'a pas volé, là, autrement dit, tu sais, c'est mérité. C'est donc un des meilleurs acteurs athlètes qu'on a actuellement dans cet univers-là.
Absolument. Puis tu sais, Kevin Owens, tu l'as mentionné brièvement tantôt, il a pas remporté de titre, mais il était quand même dans un match avec la sensation Logan Paul, qui est un YouTuber qui est suivi par des millions de personnes, mais qui est aussi rendu un businessman aguerri. Sa compagnie Prime a d'ailleurs signé une entente de commandite avec la WWE pour la première fois. Mario à WrestleMania, il y avait un logo en plein milieu de l'arène et c'était le logo des boissons Prime que Logan Paul est propriétaire. Donc, tu sais, c'était quand même un gros match d'importance que Kevin Owens avait. Puis il nous a fait rire en plus parce qu'il est arrivé avec un cart de golf pour descendre la rampe. C'était quand même une bonne rampe à WrestleMania. Et il est retourné chercher son ami Randy Orton. C'est un combat à trois. Et il est retourné chercher Randy Orton. Et clairement, Randy Orton voulait qu'il lève le pied sur la pédale un peu. Et moi, j'ai eu la chance d'écouter le combat avec les parents à Kevin. Et sa mère de me dire, il n'a jamais embarqué dans un char avec. Alors, tu sais, ça a été un gros match pour Kevin également. Tu peux pas gagner des titres à chaque fois que tu as la chance mais ça veut pas dire que t'es pas. Kevin Owens est très, très bien positionné dans la compagnie en ce moment. Puis nos deux Québécois vont très, très bien. Et Mario, pour vrai, on a parlé souvent, toi et moi, d'histoire de la lutte au Québec. Ben là, il faut commencer à parler de Kevin Owens et Sami Zayn comme étant peut-être les numéros un, numéro deux dans les lutteurs québécois de l'histoire. Puis ça, c'est une discussion qu'il faudra avoir à un moment donné parce que les gars sont impressionnés. C'est à leur 8e WrestleMania chacun, le plus chez les Québécois. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, au même moment que je te parle, la musique de Sami Zayn se fait entendre ici au Wells Fargo Center. Donc, les oreilles devaient y bourdonner. Mais c'est deux Québécois qui ont le plus de longévité également à la WWE. Donc, C'est toute une carrière que ces deux gars-là ont.
Comment ça se fait? Je sais pas si t'as déjà dit ça, Pat. Moi, je pensais quand que la UFC est arrivée dans ce monde-là, tu sais, les arts martiaux mixtes, je pensais que ça allait tuer la lutte parce qu'on avait du vrai versus, du sport de haute performance, mais tu sais, scénarisé. Et ça n'a pas été le cas du tout. La UFC existe, va très, très bien. Puis la lutte, bien que ça a changé de lettre d'appellation, là, c'était F, là, c'est E, la WW, mais ça continue de carburer à fond la caisse. Comment t'expliques ça? Puis donc, au Québec, ce grand intérêt-là? C'est quoi la recette? Ben, comment ça fait que ça marche de même encore?
Ben, quand tu as la chance de pouvoir scénariser les histoires et les résultats, surtout, ça fait une différence. Au UFC, dans les arts martiaux mixtes, tu as bien beau créer une belle histoire entre deux combattants qui va t'amener au combat, mais des fois, tu n'auras pas le résultat que tu aurais souhaité avoir. Alors qu'à la lutte, tu as ce choix-là. Tu peux décider. Tu peux décider également de changer ton fusil d'épaule une journée avant le match si tu vois que, ouais, finalement, je le file un peu moins, ce gagnant-là. Donc, la lutte te permet beaucoup plus de liberté. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que la lutte continue d'être aussi populaire. Et ce qui est encore plus ironique dans ce que tu dis, c'est que maintenant, ben le UFC, la WWE font partie de la même compagnie, c'est-à-dire TKO, qui est la compagnie mère maintenant. Donc on a ramené ça ensemble parce qu'évidemment, moi j'ai toujours dit que la lutte c'est un combat, un sport de combat scripté, et l'autre c'est un sport de combat point. Alors les deux ont quand même des similitudes, puis les deux compagnies travaillent ensemble maintenant.
Là, The Rock n'est plus le gentil, il est devenu le méchant parce qu'ils se sont rendus compte que il y en a un, je pense que c'est Cody Rhodes, que dans le fond les gens ont adopté, puis c'est lui qui est le plus populaire en ce moment.
Ben exactement. Puis le Rock a été capable de prendre la meilleure décision possible pour le show. C'est-à-dire, ben, si les fans veulent Cody à ce point-là, ben, on va leur donner, ben, on va changer les plans. Le Rock, Dwayne Johnson, qui est maintenant sur le conseil d'administration de la compagnie TKO, justement, donc il a les intérêts de la compagnie à cœur, il peut prendre les meilleures décisions. Et justement, aujourd'hui, à Raw, un petit peu plus tôt, Mario, ben, il y a eu une confrontation verbale entre le Rock et Cody Rhodes. Il a été très intense, c'était du bonbon à regarder. Le Rock, évidemment, ne peut pas être ici à temps plein. Il y a des films à tourner, mais c'est clair qu'il va revenir. Il l'a dit en conférence de presse, c'était pas son dernier combat, et qu'il va revenir à un moment donné. On va bien choisir ses moments. Mais si on peut avoir le Rock 2-3 fois par année comme ça, c'est sûr qu'on va le prendre.
En fin de semaine, c'était comme un Hall of Fame sur le ring. Là, je pense que tous les gros noms étaient à peu près de retour. Puis tu sais, je te dis ça, puis pas parce que je le regarde tout le temps, puis je le sais, mais tu sais, je lis quand même, j'étais un peu au courant. Puis je pense que John Cena était là, Stone Cold était, je sais pas s'il était là lui tout, mais ils sont tous venus faire le tour.
Ben à peu près. Il manquait peut-être Stone Cold, Steve Austin, Hulk Hogan. Le but c'était pas de tous les ramener. L'Undertaker était là, John Cena était là. Le but, c'était d'amener ceux ou celles qui étaient pour avoir créé un intérêt ou qui avaient un certain rapport avec l'histoire qu'on voulait raconter. Mais oui, c'est sûr que ça a eu des réactions énormes quand John Cena est arrivé, quand l'Undertaker est arrivé également. La nostalgie du scénario, ça fonctionne tout le temps. C'est pas différent pour WrestleMania.
En fin de semaine prochaine, penses-tu que ça va être plein? C'est au Centre Bell, pas à la Place Bell. C'est bel et bien au Centre?
Non, c'est au Centre Bell. C'est lundi, le 15 avril. Pour l'instant, il y a entre 9 et 10 000 billets de distribués. Je pense qu'on va être capable d'aller chercher peut-être un 12 000 dans ce point-là, un 12 000, 13 000 peut-être, si on est chanceux.
Est-ce que c'est bon?
Pour un Raw. Ah oui, pour un Raw, c'est excellent parce que dans le fond, on peut pas remplir le Centre Bell au complet à cause du...
La formule théâtre
qu'on amène. Ben oui, non, c'est le décor qu'on amène. Il y a un gros écran géant qui cache l'arrière d'un des deux buts, donc qui cache quand même plusieurs milliers de sièges. Donc, pour un Raw comme ça, je te dirais, le maximum est peut-être un 13, 14 000. Donc, si on a 11, 12 000, c'est excellent. Ça va être rempli, peut-être pas à pleine capacité, mais ça va être rempli. Et puis, ben, on espère justement que la victoire de Sami Zayn, qui revient chez lui comme champion, ben, ça va pouvoir faire en sorte que les billets vont bouger un peu plus là, dans la dernière semaine.
Ben Pat, je veux pas te faire manquer là, la performance de Sami Zayn si t'entendais sa musique. Fait que je te laisse aller, mais merci pour ces belles minutes en direct de Philadelphie. Ça a été un vrai plaisir de parler avec toi.
Avec plaisir, Mario, n'importe quand. Bonne soirée, bye-bye.
Merci, bonne soirée. Pat Laprade, donc, qui assiste à Raw aux États-Unis. Êtes-vous des amateurs de lutte, vous-même? Moi, je suis toujours étonné de voir à quel point ça rejoint là, des gens par milliers.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Hey, ça vous tente de parler de golf un peu? Le Masters, dans quelques jours, on commence à avoir pas mal de nouvelles sur Tiger qui joue à cachette avec les médias qui le traquaient sur le parcours du Masters où il tentait de s'entraîner en toute quiétude, répliquant la même recette qu'il avait, si vous voulez, adoptée lors de sa dernière victoire. Et pour parler de golf, ben, c'est un spécialiste. Pour les gens qui l'ignorent, il est professionnel lui-même, enseigne à son émission Les Pros à RDS, de retour à RDS, Daniel Melançon, qui est avec nous en studio ce soir. Bonsoir, Daniel.
Hey, une grosse sortie en ville à soir. Je me gâte.
Avec l'aide de belle maman.
Ben oui, parce que ma conjointe est en Floride pour se reposer cette semaine. Et puis, c'est mamie qui garde le petit pour la soirée.
Extraordinaire. Alors, on salue mamie. On la remercie de t'avoir permis de venir nous voir en studio. Es-tu excité pour le Masters qui s'en vient? Le golf a tellement changé dans les dernières années avec l'avènement du livre. Mais les majeurs demeurent les majeurs.
Ben en fait, ça reste à mon humble avis... les tournois référence au cours d'une année. C'est-à-dire que les tournois réguliers du PGA Tour, bien qu'on ait augmenté les bourses, ça reste des tournois intéressants, mais là, où sont les vrais enjeux? C'est les tournois majeurs, et encore plus depuis l'arrivée du livre, comme tu le précisais, parce que il y a plusieurs gros noms du golf qui sont pas moins talentueux, qui sont plus disponibles pour les tournois réguliers du PGA Tour. Alors, le seul moment pour véritablement voir les forces en présence sur la scène mondiale, c'est les tournois majeurs plus que jamais. C'est le Masters, c'est le PGA Championship, c'est le US Open et ultimement The Open. Et après ça, ben si tu veux voir un Koepka jouer contre un Scheffler, si tu veux voir un DeChambeau jouer contre McIlroy, il te reste que les majeurs. Moi, je trouve ça désolant comme... En fait, je suis un fan de golf principalement. Et comme, tu sais, c'est tu veux voir les meilleurs s'affronter. Alors, quand on rentre dans une semaine comme le Masters cette semaine... Ben c'est sûr que là, c'est la crème de la crème. Et particulièrement le Masters. En plus, c'est le seul tournoi majeur qui est sur invitation. Donc, t'as quand même un bassin réduit comparativement aux trois autres tournois. Donc, c'est un tournoi particulier dans un cadre, ben tu le sais, enchanteur. Vous le savez, le Masters, c'est un jardin botanique, littéralement.
Je suis jamais allé, cependant. Moi, as-tu non, eu cette chance-là, non?
Malheureusement, j'ai eu deux occasions qui, malheureusement, ne se sont pas concrétisées. Mais écoute, je regarde le Masters, depuis l'âge de 13 ans, j'en ai 51 aujourd'hui. Et tu sais, mes souvenirs remontent à Nicklaus en 86. J'avais 13 ans quand il a gagné à 46 ans.
C'est tellement marquant.
C'est marquant. Puis tu sais, après ça, ça défile, que ce soit la victoire de Crenshaw qui pleurait le décès de Harvey Penick, la première victoire d'un gaucher Mike Weir en 2003. Je me souviens exactement où j'étais. L'année d'après, il passe le veston vert à un autre gaucher, à Mickelson. C'est la première fois que je décrivais un tournoi majeur avec Mickelson comme champion. J'étais à RDS à ce moment-là. Je veux dire... De 86 à aujourd'hui, le tournoi des maîtres me ramène tout plein de souvenirs. Puis pour nous, Québécois, Canadiens, c'est symbole de la saison qui approche.
Oui, littéralement, même si maintenant, dans le niveau canadien, il y a un tournoi majeur qui le précède, mais c'est encore le Masters pour moi qui lance les choses. Et il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à lire également, à moins de suivre le Live Tour. J'ai pas été capable de me mettre à suivre le Live encore. Je dis pas qu'il joue du mauvais golf. Et John Rahm, lui, est-ce qu'il a fait défection au bon moment? Est-ce qu'il passe moins pour un méchant que les autres qui ont fait défection en tout premier lieu? Puis ce qui arrive avec un momentum, c'est ça que j'ai de la misère à lire pour venir défendre son titre.
Ben, c'est un bon point que tu soulèves, parce qu'il s'amène au Masters comme champion à titre. Il a déserté le PGA Tour, amenant avec lui des millions de dollars. Mais je pense qu'il réalise en même temps qu'il a peut-être pas les yeux tournés vers lui autant qu'il le souhaitait. Ça reste un gros joueur du golf professionnel, mais sincèrement... J'ai beau être un amateur de golf, je regarde pas plus le livre parce que John Rahm est rendu là. Écoute, je suis probablement le plus grand fan de Brooks Koepka qui est rendu avec le livre et j'ai essayé de regarder le livre et la facture visuelle ne me plaît pas et
même affaire. J'ai de la misère. Je sais pas.
Et tu parles là à un fan fini de golf. J'ai rien contre le produit. C'est juste que il y a quelque chose qui m'allume pas. Alors une semaine comme cette semaine de voir les Rahm, Koepka, Cameron et compagnie, DJ, ben, je suis excité. Qui joue sur le livre ou pas, je m'en fous.
Oh oui.
Moi, c'est l'idée de voir les meilleurs contre les meilleurs. Et malheureusement, ben, les deux étant divisés, Liv et PGA Tour, ça fait en sorte qu'on a moins l'occasion de les voir ensemble.
J'ai vu que John Rahm, et peut-être que lui, là, constatant certaines choses depuis qu'il est arrivé sur le Liv Tour, recommande, en tout cas, disait à voix haute qu'il aimerait ça qu'il se mette à jouer quatre journées, puis jouer des 72 trous comme ben, la PGA. Mais c'est tu sais, là, je sais pas, c'est dans quoi qu'il s'est embarqué. Je sais pas s'il va réussir à changer ça.
Écoute, il a assuré l'avenir de sa famille et de tous ceux qui suivront, mais force est d'admettre que, tu sais, je sais pas s'il se pensait plus gros qu'il l'est en réalité, là. Je parle pas physiquement, mais en termes de présence d'impact. Golfique, d'impact qu'il peut avoir. Mais, tu sais, il aurait peut-être dû y penser avant, là. Tu sais, parce que, est-ce qu'il est en train de réaliser que le côté compétitif lui manque? Parce que, ce que j'aime beaucoup de John Rahm, puis on va le voir cette semaine, c'est que c'est un gars qui est bouillant. Il a le sang chaud. C'est un Espagnol. Oui. On les connaît, Léo Lazabal, les Garcia, tout ça. Mais non, mais tu comprends? Alors, quand tu fais un bon coup ou un mauvais coup, John Rahm, tu le sens tout de suite. Écoute, tu le livres, là. Ça a l'air d'un... Malheureusement, là, c'est un peu...
Ça a l'air d'un party.
Ça a l'air d'un party, c'est bien dit.
Exactement, puis bon, mais en tout cas, les gars sont bien payés pour jouer du golf dans une ambiance comme
celle-là.
Extrêmement
bien payés, mais tôt ou tard, on va souhaiter qu'il y ait une espèce de consensus pour retrouver et réunir toutes ces forces-là du golf. Parce que moi, je crois pas que c'est bon pour le golf. Comme amateur de golf compétitif, tu veux que les meilleurs s'affrontent semaine après semaine. Tu sais... C'est difficile de faire un parallèle avec la Formule 1 parce que le spectacle est pas nécessairement toujours bon en Formule 1, mais en Formule 1, t'as que les meilleurs qui sont réunis et c'est un circuit mondial. Est-ce que le golf s'en va vers ça, un circuit mondial et moins américain? Possible, mais... Encore une fois, mon plus grand souhait, c'est de voir les meilleurs contre les meilleurs semaine après semaine.
Je reviens au Masters, donc la prochaine fin de semaine, je parlais de Tiger, parce que veut pas, même si on tomberait tout en bas de notre chaise, qu'il soit même là, sur le terrain presque, de jouer les quatre rondes dimanche encore, puis à la limite, même peut-être dans le coup, là, sur le tableau des meneurs, ça va être en tête, crois-tu que Tiger peut jouer quatre rondes de golf en fin de semaine prochaine? Puis est-ce que c'est injuste que je parle de Tiger avant de parler de n'importe quel autre joueur de la PGA?
Ben, en fait, c'est pas injuste. La majorité des gens... d'une certaine génération sont plus des fans de Tiger Woods que des fans de golf. Et ça, c'est, je trouve ça malheureux. Mais je comprends ton point parce que Tiger, c'est le plus grand golfeur de sa génération et possiblement le plus grand golfeur de l'histoire. Cependant, il manque de volume. Il a clairement pas assez joué à mes yeux pour être en mesure de dire, on va le voir sur le tableau des meneurs en fin de semaine. Écoute, à mes yeux, si jamais il faisait un top 20 en fin de semaine, ce serait une super prestation de Tiger Woods, considérant le peu de golf qu'il a en lui, compétitif ces derniers mois.
C'est quasiment miracle aussi.
C'est ça.
Ça.
Puis en plus, il annonce pas beau jeudi. Puis après ça, ben c'est du temps relativement clément et chaud pour le reste de la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Ça pourrait l'aider. Mais l'année passée, souviens-toi, ça a été du temps merdique au Masters, des problèmes de santé, jumelé à du mauvais golf, tire la plug et c'était terminé pour lui. Mais ce qui va figurer, écoute, pour le spectacle, ce serait extraordinaire, mais j'ai plus l'impression qu'on va voir les joueurs qui sont hot actuellement se distinguer, les Scheffler, les McIlroy, possiblement les Koepka de l'autre côté. Will Zalatoris joue du très bon golf. Il y a seulement deux présences actuellement au Masters, mais a tout le temps eu des bons résultats. Rahm a jamais raté la cote au Masters. Il va sûrement être très fort pour défendre son titre. En tout cas, j'ai hâte de voir.
Le bassin, le pool de joueurs pouvant gagner, il est quand même assez large. Là.
Large, mais c'est peut-être le plus restreint des quatre majeurs.
Ah, tu trouves? Ben, parce qu'il y a moins, parce que tout le monde n'y est pas.
Il y a moins de golfeurs qu'un tournoi régulier des majeurs. Il y a moins de golfeurs que le PGA Championship, que le US Open et que le The Open. En plus de ça, tu as plusieurs anciens champions qui sont au Masters qui vont faire acte de présence pour leur propre gloire. Je pense entre autres à Couples, Vijay Singh.
C'est le tournoi qu'un gars devrait normalement avoir le plus de chances de gagner.
Pour vrai, si on prend la liste des joueurs inscrits cette semaine, il y a peut-être 18 ou 20 gars qui peuvent potentiellement gagner. Point final. C'est à peu près ça la liste. Cet après-midi, je regardais puis je me disais, ça oui, ça non. T'as 5 ou 6 amateurs qui sont inscrits. Ils sont full talentueux. Mais écoute, jouer au Masters pour la première fois et essayer de gagner là, ça relève de l'exploit. Dans l'histoire moderne, il y a un golfeur qui s'est présenté au Masters pour la première fois puis qui a gagné. C'est Fuzzy Zeller en 1979. Première fois qu'il jouait le terrain, wow. Puis il est sorti vainqueur. Autrement, faut que tu remontes des années tranquilles. Là.
Ouais, mais la connaissance du terrain semble être un immense atout pour la plupart. Puis Tiger est un de ceux qui a capitalisé là-dessus. C'est pour ça qu'on se garde une petite porte ouverte à ce qu'il joue bien.
Ben, en fait, sa connaissance immense du terrain, le fait qu'il a gagné 5 fois, la dernière fois en 2019, ça va l'aider assurément. Il a encore le potentiel de frapper des fers exceptionnels. Est-ce que son dos, sa jambe, son corps va résister à un parcours qui est accidenté? Tu sais, ça a été dit et il faut le répéter, mais le parcours du Augusta National, quand on le voit à la télé, ne rend pas justice au côté accidenté et dénivelé qu'il présente en réalité. Je veux pas faire un mauvais parallèle, mais c'est quand même ça. Mais
un terrain québécois qui a bien de la...
Mais je vais te faire un parallèle que tu vas comprendre. La Streif, la piste de Coupe du Monde à Kitzbühel, en Autriche.
Oui.
OK? On voit comment les skieurs descendent ça. Tu dis, hey, c'est pas complètement malade, mais il faut que tu saches qu'en réalité, c'est pire que ce que la télé nous rend. OK? Mm-hmm. Le Masters, c'est pareil. C'est beaucoup plus accidenté. Les coups à plat sont à peu près inexistants, même sur les verts. Alors, ça prend des golfeurs qui sont capables de créer et de faire à peu près toutes les shots dans toutes les directions, dans toutes les circonstances. Et c'est pour ça que je dis que le bassin de joueurs qui peut ou qui peuvent gagner le Masters, dans les joueurs inscrits, il y en a 18-20 maximum.
T'as pas tort quand tu dis qu'on est peut-être plus des amateurs de Tiger que de golf, mais tu sais, je suis vraiment un amateur de golf, mais je dois admettre, puis je regarde des tournois sans Tiger, parce qu'écoute, il a manqué plus de tournois qu'il en a joué dans les dernières années.
Ben oui.
Mais veux pas, il manque souvent quelque chose. Il y a plusieurs prétendants aspirants au titre du nouveau monarque. Il y en a, bon, Ram en est un, il vient de partir dans le lift-tour, mais tu sais, comme, il y a pas, trouves-tu qu'il y en a un qui est une coche au-dessus des autres?
Ben, à l'heure actuelle, Scottie Scheffler.
C'est Scheffler.
Écoute, il présente des statistiques sur le PGA Tour actuellement qui sont équivalentes ou supérieures à celles de Tiger Woods dans son prime.
Imagine.
Alors, écoute, on s'entend sur une chose, c'est que Scheffler a le charisme
d'une roche,
on s'entend,
oui.
Mais ça y avait rien
mais
de son
golf en temps.
Exactement, mais tu sais, Tiger, c'était du talent brut et une personnalité unique.
Oui.
Tu sais, je veux dire, tout le monde voudrait réagir comme Tiger dans son prime, tu sais, je veux dire, c'est fascinant comment qui amenait le golf à un autre niveau à ce niveau-là, et c'est pas donné à tout le monde non plus de réagir comme ça, tu sais.
Non, vraiment pas, c'est pas donné à tout le monde. Et de qui devrait-on parler? Mais Scheffler, c'est drôle parce que tu sais, à un moment donné, quand un gars a le momentum, comme Nelly Korda sur la LPGA quatre victoires consécutives. Mais parle-moi un peu.
Écoute, Nelly Korda, moi, je peux t'en parler parce que je dis souvent à certains élèves de regarder son élan. Pour moi, Nelly Korda, que quand tu regardes les élans du monde du golf en général, professionnel, homme-femme, tout golfeur, golfeuse confondu, pour moi, Nelly Korda, c'est le plus bel élan actuel dans le monde du golf.
Ah oui?
C'est superbe, c'est rythmé, c'est fluide, ça se fait sans effort, c'est en équilibre. Et elle performe.
Est-ce que c'est un nouveau phénomène, tu penses? Est-ce que ce qu'on voit là, c'est une séquence puis qu'elle reproduira jamais, ou c'est la nouvelle?
Ben en fait, moi je pense qu'elle est dans une montée
irrésistible.
Ou elle pourrait faire du Jannica Sorenstam assurément dans les prochaines années. Ben oui. Je veux dire, elle a le gabarit, elle a une belle approche à la partie, puis elle vient d'une famille de sportifs. Tu sais, la compréhension de la game, là.
C'est pas la fille de Peter Korda.
Ben oui. Puis son frère joue ATP aussi.
Ah oui.
Donc c'est une famille de champions sportifs, là.
Ah.
Puis je me souviens pas exactement ce que sa mère faisait, mais sa mère était aussi une sportive.
Okay.
Mais tu sais, le golf, c'est au-delà du physique, il faut que t'arrives à te placer dans une zone où faut que tu deviennes imperturbable. Tu comprends?
La mère joue au tennis aussi.
Ouais, c'est ça, la mère joue au tennis. Donc, c'est ça, c'est des sportifs.
Ouais.
Alors, tu vois, elle a ça dans son ADN. Et en plus d'avoir un talent immense et une éthique de travail, ça accroche, ben, elle arrive à présenter des résultats, extraordinaires semaine après semaine au niveau de la LPGA, tu sais.
Si t'avais 2-3 noms, là, à mettre dans le chapeau, puis c'est un de ces 2-3 gars-là, t'as demandé juste un, c'est difficile, mais miserais-tu sur Scheffler, Ram ou un?
J'en souhaite deux. D'abord, Koepka, parce que c'est mon préféré. Ça lui ferait un sixième titre en tournoi majeur, ce qui est pas rien. Déjà qu'à 5, il est presque assuré d'une place au temple de la renommée du golf. Mais je dois t'avouer que, tu sais, je parlais de Nelly Korda puis son élan extraordinaire. Et pas loin derrière, pour moi, c'est McIlroy. En termes d'élan à reproduire et à tenter de calquer.
Il est jamais bien loin, mais.
Et c'est ça.
Il arrive pas à.
Mais là, ça commence à faire longtemps qu'il a gagné McIlroy au tournoi majeur. Et s'il gagne le Masters, ça va lui faire un grand chelem. C'est-à-dire qu'il va avoir gagné chacune des tranches du grand chelem au cours de sa carrière. Et c'est ça qui lui manque pour valider, si tu veux, d'une certaine façon, son côté légendaire de golfeur. Parce que, tu sais, avec la victoire du PGA Championship de Koepka l'an passé, Koepka l'a devancé en termes de titre majeur. Alors, tu sais, ça fait un bout de temps.
Ça le mettrait dans le coup, là.
Ben oui, ça le mettrait dans le coup et ça ferait en sorte que, ben, la rivalité, même si les deux ne se voient plus sur une base régulière, ça ferait en sorte que, dans le prochain tournoi majeur, au PGA Championship, Koepka champion en titre, et là, les deux auraient 5 titres majeurs chaque, ça ferait un beau match-up, mettons.
Un de mes fils a joué sa première ronde en sol québécois aujourd'hui, mais il y a bien des terrains qui avaient ouvert, qui ont fermé ben là, oui. À cause de la neige, mais ouais. Bref, j'ai hâte de jouer ma première, j'ai pas frappé un panier de balle encore.
Moi, j'ai commencé ma saison 2024, mais j'ai pas commencé en sol québécois, donc j'ai...
T'as joué en Écosse?
Écoute, j'ai vécu une première récemment, la gang de Sportvac ici à Saint-Lambert m'ont délégué pour aller à la semaine du tourisme du golf en Écosse. Alors, j'ai pu découvrir le Home of Golf. Et pour la première fois, je vous raconte une petite anecdote, mes ancêtres du côté Melançon, c'est écossais.
Ah oui.
Alors c'était comme un retour aux sources mais lointain.
Ah ben c'est bien
long.
Cool.
Et ça a été une semaine extraordinaire, j'ai joué un parcours Fort Rose Rosemarkey qui a vu le jour en 1793. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous allez voir une coupe d'images que j'ai mis, on a pogné des vents Mario de 70 km/h.
Aïe aïe.
C'était écoute, en temps normal, on n'aurait pas joué, mais comme on était là, écoute, on essaie, on joue. La balle tombait du tee, là. C'était pas des farces, là. C'était hallucinant comment qu'il ventait. C'est sur une belle péninsule, sur Moray Firth, dans les Highlands, au nord de l'Écosse. Mais quiconque a la chance d'aller en Écosse une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour vivre comment les Écossais approchent la game, comment les parcours sont conçus, c'est juste différent. Faut ajuster son cerveau pour chaque coup au golf.
J'ai un ami qui s'en va là tout seul en pèlerinage de golf. C'est son Compostelle de golf en quelque sorte. Mon ami Michel Chemin, il est à l'écoute. Bon voyage. Daniel, merci de ta belle visite. Ça donne le goût de jouer juste d'en parler.
Anytime.
Daniel, un gros merci. C'était Daniel Melançon aux amateurs de sport.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Et c'est un départ pour l'émission de ce soir. Accueillons d'abord Stéphane White. Bien le bonsoir, Steph.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très très bien. Dis-moi, as-tu regardé l'éclipse, toi, comme tout le monde, ou... Non? Oui?
Oui, j'ai eu la chance de le regarder. Ben oui, c'est assez spécial.
On ne pouvait pas passer à côté de ça. Deux autres défaites pour les Canadiens en fin de semaine, Stéphane. Y a-tu quoi qui t'a frappé dans ces deux résultats-là de façon tout à fait ouverte avant que j'y aille avec une question plus précise sur notre duo de gardien de but?
Ce qui m'a frappé, c'est que, premièrement, on ne peut pas reprocher aux Canadiens d'excuser l'expression là, en anglais, de matcher l'effort avec l'adversaire. Les gars travaillent fort, travaillent aussi fort que l'adversaire. Les gars ils jouent avec de l'émotion. Ça, là, on peut pas reprocher ça aux Canadiens. C'est juste qu'à un moment donné, c'est trop. Ça devient trop. Contre Tampa Bay, contre Toronto, contre les Rangers. À un moment donné,
t'as pas
ça
de marge d'erreur.
Juste trop. C'est ça. Ça devient juste trop pour une équipe qui n'a pas la profondeur pour affronter ces équipes-là. Donc, après ton premier trio, là, ça devient très difficile, même si le trio de Noah, Gallagher et Armia jouent du bon hockey, mais il reste que dans une équipe, une pas pire équipe, ça reste que c'est un troisième trio. C'est juste trop à un moment donné. Et il y a tout le temps ce passage à vide-là. On l'a vu samedi soir contre les Maple Leafs, les 6 minutes où c'est comme s'il y aurait eu un éclipse. Le Canadien s'est éclipsé pendant 6 minutes. Et puis la même chose à New York où en troisième période, on était pendant 3 minutes là, où un gros passage à vide. Mais écoute, le Canadien travaille fort. Le Canadien apprend, je pense, dans l'adversité. Parce que c'est pas mal mieux, Mario, jouer contre des grosses équipes et d'apprendre c'est quoi que ça prend pour gagner, comment que ces équipes-là réagissent, comment que ces équipes-là gère la rondelle dans telle ou telle situation. Pas mal mieux de jouer contre ces équipes-là que de jouer contre les Sharks de San Jose, les Coyotes ou les Ducks d'Anaheim. C'est pas mal. T'apprends plus à jouer contre ces équipes-là. Et ce que j'aime, moi, c'est que le Canadien au moins se présente.
Ouais, il y a pas de doute là-dessus que c'est il y a plus d'infos puis il y a plus de d'apprentissage à faire dans des duels comme ceux de la fin de semaine, même si t'en sors perdant. Par ailleurs, tu parlais du premier trio. Bon, pour ceux qui sont un peu frustrés ou peut-être je sais pas qui regardent ça de façon négative la semaine passée, qui est en train d'essayer de me convaincre ou de convaincre l'auditoire que Martin Saint-Louis avait échappé Cole Caulfield pour essayer de le transformer en joueur défensif. Là, je sais pas, il y en a qui ont des lunettes spéciales, pas juste pour l'éclipse, mais pour regarder le Canadien. 4 buts à ses 4 derniers matchs pour Caulfield est à 1 point d'une saison de 60 points, 24 buts, 35 passes. Mais je veux parler du trio dans l'ensemble. Dans le duel, parce que Martin investit énormément dans son premier trio, il les oppose au premier trio de Tampa Bay, au premier trio des Rangers, puis avec toutes les équipes. Tu trouves-tu qu'eux autres, si tu t'arrêtes juste au premier trio, qu'on est dans la game, qu'ils sont là, tu commences la saison prochaine, là, que t'es de calibre avec les meilleurs premiers trios de beaucoup d'équipes, même si on n'a pas de McDavid et de McKinnon?
On n'est pas rendu là, à mon avis, mais on s'en va vers là. Les jeunes sont encore jeunes, là. Un à 20 ans, un à 22, un à 25, il va avoir 25. On sont encore très jeunes, mais on s'en va vers ce fait d'être un des bons trios dans la ligue qui peut affronter n'importe quel bon trio dans la ligue. Et puis, on n'est pas rendu là. C'est comme le reste d'équipe. Pour moi, c'est une évolution. Il y a une affaire qui est certaine. C'est qu'il va falloir que ces gars-là aient de l'aide. Quand je parle d'aide, c'est d'avoir un vrai deuxième trio pour les supporter. Parce que c'est trop facile pour l'adversaire de dire on met tout pour contrer ce premier trio-là.
Mais quand même, ils se font pas mettre en miettes, mettre en morceaux quand même,
non,
là, ce trio-là.
Là. Non, mais là où ce que j'étais rendu, c'est ils vont avoir besoin d'aide. Et
oui.
D'aide, c'est d'avoir un deuxième trio. Parce que là, c'est trop facile pour l'adversaire de dire, écoute, on va tout faire pour contrer ce premier trio-là. Et si on réussit ça, nos chances de succès sont très, très, très bonnes. Et puis, ça, c'est beaucoup de pression sur ce jeune premier trio-là. C'est beaucoup de pression dans le sens que si tu marques pas, tu gagnes pas. Et c'est beaucoup de pression dans le sens que tu es surutilisé parce que t'as pas d'autre, t'as rien d'autre après. T'as zéro. Donc, le gros travail de Kent Hughes l'été prochain, c'est d'essayer de former un vrai deuxième trio de la Ligue nationale. Et c'est là-dessus la priorité. Et comment on va faire ça? Je ne sais pas. Ça, c'est la job de Kent Hughes. Mais probablement, on va avoir un surplus de défenseurs. Ça fait un an qu'on en parle qu'on va avoir un surplus de bons défenseurs.
Il va y avoir des décisions à prendre de ce côté-là. Il y a des attaquants qui vont venir de la liste des blessés également, dont Doc et Dvorak. Même si je ne parle pas de Dvorak comme un gars d'avenir, mais il reste que quand il est en santé, c'est un gars de la Ligue nationale pareil. Là, peu importe dans quelle chaise tu le sois, là.
Absolument, mais il va falloir sacrifier probablement un jeune défenseur et peut-être un bon choix au repêchage pour trouver un bon deuxième joueur, un bon joueur de deuxième trio qui va s'ajouter à Kirby Dach. Et je pense qu'éventuellement, Joshua Roy va faire un bon joueur de deuxième trio. Donc, on n'est pas si loin de ça, mais ce joueur de deuxième trio-là est une priorité pour Kent Hughes.
Avec le retour d'un DAC en santé. Bon, la question que je voulais vraiment te poser ce soir, parce que ben, t'es notre expert des gardiens de but, même si t'es un expert dans leur camp général, évidemment, Stéphane, mais tu sais, mettons que, puis comme ça s'est sûrement déjà passé, là, quand c'était le temps de prendre des décisions concernant un gardien ou d'autres décisions, Marc Bergevin t'invitait, te consultait, imagine un scénario où on va inviter Éric Raymond, donc Kent Hughes, Martin Saint-Louis, on va faire le bilan de la saison, on va regarder l'an prochain, mettons tu te mets dans une position que t'as déjà vécue. Puis moi, je te demande, Stéphane, je te dis, Stéphane, nous autres, là, évidemment, tu sais, comme tu l'as dit, il y a des zones dans lesquelles on n'est pas rendu là, mais une des façons d'atténuer ça puis de donner une chance, c'est de compter sur un bon duo de gardiens avec l'objectif de faire les séries. Si je te dis, hey, on veut faire les séries cette année, puis je veux que tu me donnes ton opinion, on a-tu besoin d'aller chercher un autre gardien ou tu mets ta tête sur la bûche qu'on est capable de faire ça avec les deux gars qu'on a là actuellement?
Écoute, je l'ai mis une fois dans ma vie, ma tête sur la bûche. Et puis, ça a bien tourné. C'était la deuxième saison, la première saison, je veux dire, complète dans la Ligue nationale de Corey Crawford. Et puis, à la fin de la saison, Corey avait eu des hauts et des bas. Et on m'avait dit que l'objectif des Blackhawks, c'était d'aller chercher un gardien de but. Parce qu'il croyait pas que Corey Crawford pourrait faire un numéro un. Et j'ai dit dans le fameux meeting de fin de saison où le gérant général était là, les entraîneurs étaient là, les assistants et même le président de l'équipe à l'époque était là. Et j'avais dit, ils m'ont dit, t'es-tu prêt à mettre ta job en jeu là-dessus? Parce que j'avais dit que Corey Crawford va devenir un gardien de but numéro un pour telle raison. Lui, j'étais convaincu. Dans le cas de Montembeau et Primo, je pense qu'ils vont faire un bon duo, mais pas plus. Ça sera pas dans le premier tiers des duos de la Ligue nationale, mais ça va être dans le deuxième tiers. Et ils sont assez bons, ils seront pas dans le dernier tiers. Donc, quand on parle de tiers, on divise par 10. Les 10 premiers, je crois pas qu'ils sont là, mais ils sont dans les 10 suivants, entre 10 et 20. Ça, c'est un bon duo. J'ai confiance en Caden Primo. J'ai une grosse confiance en Caden Primo. Et j'ai une belle confiance en Sam Montembeau, mais j'ai pas confiance à ni un ni de l'autre pour dire...
Pour mettre ta job en jeu, là, on jase, là, tu sais.
Exact, exact. Et j'ai pas assez confiance pour dire, OK, il y en a un des deux qui peut jouer 60 matchs. Non, ça va être un 45-35. Ça va être un duo, un vrai duo. Et moi, j'ai confiance qu'ils peuvent faire un job très respectable pour essayer d'amener, éventuellement d'amener cette équipe-là en série. Mais de là de dire de gagner en série, je suis pas rendu là.
Fait que toi, tu mets pas un drapeau rouge dès cet été pour dire, Kent, si tu veux faire les séries non. Cette année, faut que je trouve un gardien de but.
Non, je pense que ce duo-là peut amener le Canadien en série. Mais rendu là, ça c'est l'autre étape, c'est de gagner en série. Là, j'ai un gros bémol sur là-dessus. Et moi, ce qui m'impressionne spécialement dernièrement de Caden Primo, c'est son caractère. On revient à jeudi passé contre le Lightning. Il donne 6 buts dans les deux premières périodes. On prend la décision de le laisser dans le filet. Une décision que j'étais d'accord. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il nous montre du caractère. On voulait qu'il vive de l'adversité. Et puis, il l'a très bien fait. Il a joué une troisième période très solide. C'est quoi que ça a fait, ça? Ça a fait que quand on l'a amené dans le match contre Toronto au milieu du match, il n'y avait pas l'air d'un gardien de but qui a été ébranlé dans le dernier match. Au contraire, il avait l'air d'un gardien de but très confiant, a rien donné en 18 lancés. Le lendemain, il s'en va au Madison Square Garden contre la meilleure équipe de la Ligue nationale au niveau des points jusqu'à maintenant, les Rangers. Dans une aréna qui n'est pas facile à jouer, dans une deuxième partie en deux jours, tu viens de voyager. Caden Primo arrive là, 45 lancés, 41 arrêts, a été un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur du Canadien de Montréal. Ça, là, c'est du caractère. On se rappelle dans la saison, il y a eu un match très difficile contre les Panthers de la Floride, 6 buts accordés. Son prochain départ, une semaine plus tard, son prochain départ a fait 42 arrêts contre les Sabres de Buffalo. On a gagné en tir de barrage. Il avait joué tout un match. Tout un match. Encore là, montrer du caractère après une performance du style est revenu fort. Ça, là, j'aime ça voir ça.
Ben, effectivement, je dois dire que c'est très positif ce qu'on a vu, là, des beaux échantillons de Caden Primo, mais moi non plus, je mettrais pas ma tête sur la bûche sur le duo pour l'an prochain. Mais t'es quand même assez optimiste quand tu dis qu'ils peuvent nous amener en série. Stéphane, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir, mais...
La seule affaire pour les gardiens de but, on peut acheter du temps avec ce duo-là. On a acheté du temps dans le sens où j'attends Jacob Fowler et Jakub Dobesch. Je pense que ça va être un autre upgrade,
ben
éventuellement.
Ça, la solution est peut-être... T'sais, on parle de beaucoup de Fowler, mais moi, je pense que Dobesch va peut-être se faufiler. Je parle à Jean-François Hull en direct après la pause, puis je vais lui poser certainement une question sur son gardien
Quelle
numéro 1.
Quelle progression cette saison, et bravo à son entraîneur des gardiens de but, Marco Marciano.
Ben, très bien, Steph. Alors, un gros merci, puis on se reparle plus tard cette semaine, évidemment. Bonne soirée.
Excellent, bonne soirée, merci.
Merci, Steph.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.